enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Luc, chapitre 2, verset 39. Une fois, je suis allé dans une église aux États-Unis avec l'ami avec qui j'étais. Et quand il cherchait dans sa Bible, ça faisait pas de bruit. Vous savez, il avait ses ordinateurs portatifs là. Il était là, il avait sa Bible dans son palm pocket là, moderne. Hein. On y va. Nous, on est dans Luc, chapitre 2, verset 39. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Voilà le récit de Jésus à l'âge de 12 ans. On a l'habitude de parler de Jésus quand il est tout petit ou quand il est dans une crèche, à quelques semaines, à quelques jours. Et la nativité arrive et quand ça va être le temps de Noël, il va y avoir des petits Jésus partout. On a l'habitude de parler de Jésus quand il est plus grand, quand il est sous le roi, quand il est sur la terre. Mais là, un rare récit, si ce n'est l'unique, récit de Jésus entre les deux périodes à l'âge de 12 ans. Et Luc est le seul à nous faire ce rapport de Jésus à l'âge de 12 ans dans le temple. Imaginez, chaque année, Marie-Joseph montre au temple. Chaque année, ils vont à Jérusalem pour la fête de Pâques. Pâques, c'est une grande fête. Il y avait 3 grandes fêtes solennelles en ce temps-là qui sont... Allô? C'est pas votre fête à vous, ça. 3 fêtes. Pâques. La fête des tabernacles et... Comment le nom de notre église, là? Ah, Pentecôte, c'est ça. Pentecôte, Pâques, la fête des tabernacles et la fête de Pentecôte. Et là, c'était l'occasion pour tous ceux qui habitaient loin de Jérusalem de monter au temple, parce qu'il n'y a qu'un seul temple, et la maison de Dieu se trouve que à Jérusalem. Alors quand on habite Nazareth, on fait le voyage, on fait le trajet, et on va jusqu'à la maison de l'Éternel pour fêter la fête de Pâques, et voilà que toute la famille monte à Jérusalem, comme à leur coutume. Et puis là, quand ils repartent, eh bien, ils repartent avec joie et arrive le soir et c'est le temps de préparer le coucher. Et Marie et Joseph cherchent Jésus qui a 12 ans et Jésus n'est pas là. Et certains diront, mais quels parents indignes, oublier leur petit. Ça vous est jamais arrivé, vous? Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. Une fois, on a oublié Élise. Parce qu'on était comme ça, il y avait un voyage, il y avait 2 voitures, Dans une voiture, on disait, ben, elle est montée avec les autres. Et dans l'autre voiture, on disait, ben, elle a dû monter avec les autres. Puis on fait quelques mètres. Vous voyez, on n'est pas si indigne que ça. Juste quelques centaines de mètres. Enfin, moins d'un kilomètre, c'est sûr. Au bout d'un moment, on voit ceux de la voiture de devant qui font signe, qui disent, Élise, elle est chez vous. Non, elle est chez vous. On s'arrête, Élise, elle est où? Elle n'est pas là, on l'oublie. On retourne là où on était, on la cherche partout, et on ne la trouve pas. Finalement, on arrive à la trouver. Là, après une journée de marche, Marie, Joseph, cher Jésus, ils pensaient qu'il était avec tout le monde, avec la famille, avec les parents, et Jésus n'est pas là. Alors, ils retournent à Jérusalem, et ils le cherchent encore, et on a ce mot, ils cherchent avec angoisse. C'est angoissant quand même, quand on a perdu son petit, non? Quand on avait perdu Élise, on n'était pas rassurés, hein, il fallait qu'on la retrouve là. Et ils cherchent avec angoisse. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas souciés quand ils sont descendus? Parce qu'ils avaient confiance à Jésus. Et c'était un enfant sage, non? Oui, pensez. C'est pas trop turbulent. Et voilà qu'ils le cherchent, partout. Et ils le trouvent au temple. Ils le trouvent dans le temple. Jésus a 12 ans. Est-ce que c'est important, ce 12 ans? Quelque part, c'est 13 ans qui est important. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 13 ans, dans le judaïsme, on devient fils de la loi. On passe de la stature d'enfant à fils de la loi. Imaginez, dans la synagogue, les hommes, les femmes sont séparés, mais les enfants sont avec les femmes jusqu'à l'âge de 13 ans. À 13 ans, c'est la bar mitzvah où on devient fils de la loi. Et, ah oui, mais là, c'est pas 13 ans, c'est 12 ans. Ben oui, justement. Parce que avant d'arriver à l'âge de 13 ans, il était de coutume que l'année précédente, donc la bar mitzvah, où on devient fils de la loi, l'année précédente, ou les deux années précédentes, eh bien, jeune garçon montait au temple pour se préparer à devenir fils de la loi. Ça voulait dire quoi, devenir fils de la loi? Ça voulait dire passer de la stature d'enfant à la stature d'homme responsable devant Dieu pour ses actes, pour ses actions, pour ses paroles, pour ses pensées, être là dans la connaissance de la loi de Dieu. Alors Jésus et d'autres garçons de son âge qui sont là pour être enseignés, j'allais dire pour le catéchisme, mais bon, c'est pas du catéchisme, c'est un autre mot, pour l'école rabbinique, pour être là dans la présence des docteurs de la loi. Et quand Joseph et Marie retrouvent Jésus, ils le retrouvent avec les docteurs de la loi. Et ceux qui sont là sont même surpris, impressionnés, étonnés de voir Jésus poser le genre de questions qu'il est en train de poser. Parce qu'il pose des questions. Il est là en train d'écouter, d'interroger les docteurs de la loi. Mais non seulement il écoute et il interroge et il pose des questions, mais encore il répond aux questions que les enseignants, les docteurs de la loi lui posent. Et ceux-ci sont stupéfaits, surpris de voir comment il est capable de répondre et quelle est la profondeur de ses réponses. Et Jésus, ça fait 3 jours qu'il est là, en train de dialoguer, d'être en partage avec ces gens-là. Et quand Marie, Joseph trouvent Jésus, eh bien, ils sont là en disant, on te cherchait partout, avec angoisse. Pourquoi est-ce que tu nous as fait ça? Jésus dit, mais pourquoi est-ce que vous me cherchiez-vous de la sorte? Il dit, savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Donc Jésus, à l'âge de 12 ans, est conscient que son Père, c'est pas Joseph, que son Père, il est dans les cieux, et qu'il a une mission, et qu'il faut qu'il s'occupe des affaires de son Père. Certains diront, mais bien sûr, Jésus, il sait tout. Jésus, il vient du ciel, il vient de Dieu, il sait tout. On voit souvent dans l'Évangile, Jésus tout savoir. Jean nous dit que Jésus, il n'y avait pas besoin qu'on lui raconte quoi que ce soit sur personne, parce qu'il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Jésus, Fils de Dieu, Jésus est Dieu lui-même, il sait tout. Il a la science là, il sait toutes choses, c'est vrai? Oui? Est-ce qu'il avait besoin d'aller à l'école, Jésus? Est-ce qu'il avait besoin d'apprendre? Il sait tout? Quand il arrive, quand il naît, il sait parler? Non? Il va apprendre à parler? Ah, il apprend. Il parle combien de langues? Ah. Et puis, quand Jésus est né, il savait marcher? Il va apprendre à marcher? Vous croyez qu'il a trébuché quelques fois avant de marcher? Pensez? Il apprend à marcher? Mais après, quand, vous allez dire, oui, mais ça, c'est tout petit bébé et tout, mais après, il grandit, d'accord, c'est vrai. Il grandit, nous dit Luc, et il le dit par deux fois, l'enfant croissait, se fortifiait, il croissait et il se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Il grandit, il croit, il se fortifie, mais il y a aussi une croissance là, au niveau de sa sagesse, au niveau de son esprit. Est-ce que, la grande question, est-ce que Jésus savait tout comme ça? Parce qu'il est fils de Dieu, il sait tout. Parce qu'il vient du ciel, il sait tout. Ou alors, est-ce que Jésus a eu besoin d'apprendre? D'apprendre. Est-ce que Jésus connaissait la Bible? La Torah, l'Ancien Testament. Vous savez, dans le désert, quand le diable vient tenter Jésus, et le diable à plusieurs reprises, par trois fois, va dire, Jésus, voilà telle affaire. Et Jésus va répondre, il est écrit. Quand Jésus dit, il est écrit, vous allez dire que c'est normal. Il est la parole faite chair. Il vient de Dieu, il vient d'en haut, il est Dieu lui-même. C'est normal qu'il connaisse les textes de la loi et des prophètes sur le bout des doigts. Oui? Il le sait de quelle manière? Il le sait parce qu'il est Dieu et il l'a toujours su? Ou il le sait parce qu'il l'a appris? À votre avis? Ah, c'est une grande question, ça. Regardez Jésus à l'âge de 12 ans dans le temple. Pose des questions, il interroge les docteurs de la loi. Mais pourquoi Jésus pose des questions? Pourquoi Jésus interroge les docteurs de la loi? Est-ce qu'il avait l'intention de les enseigner? On ne voit pas Jésus les enseigner. Dans ce passage, il n'est pas question de Jésus qui enseigne les docteurs de la loi. Et de Jésus qui est en train de leur dire « Voilà comment ça fonctionne ». On voit Jésus qui les interroge, qui les questionne, mais on voit aussi les docteurs de la loi questionner Jésus, mais pas forcément sur des choses que eux ne savent pas, puisqu'ils sont surpris par sa connaissance et ils sont capables d'évaluer ce que Jésus est en train de répondre et de dire « Mais il est bien avancé pour son âge, lui. Il comprend bien, il comprend vite. » Il sait beaucoup de choses. Et d'où Jésus sait toutes ces choses? Ben certainement qu'il les a apprises. Il y a une synagogue à Nazareth, non? Il n'y a pas une synagogue à Nazareth? À votre avis, il y en a une? C'est pas marqué dans Luc chapitre 4 que Jésus se rend dans la synagogue de Nazareth et que là, il trouve le rouleau du prophète Ésaïe. Jésus a appris, sabbat après sabbat, peut-être même jour après jour, il a appris à lire, à connaître ses textes, il a appris à connaître la parole de Dieu, à la méditer. Mais plus encore, à l'âge de 12 ans, il sait que Dieu est son Père. Il sait qu'il a une mission à accomplir. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Est-ce que ça, il le savait? Est-ce qu'il l'a appris? De quelle manière est-ce qu'il l'a appris? Est-ce que Jésus, à l'âge de 12 ans, Faut couper l'enregistrement, là. Le temps que je sorte mon mot. Jésus a posé la question. Ça va mieux comme ça. Jésus a posé la question à Dieu en disant, mais qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Depuis tout petit, évidemment, Marie a parlé de Dieu à Jésus. Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas que Marie lui a dit, tu sais que tu es spécial, toi. C'est passé quelque chose de spécial avec toi. Vous ne croyez pas? Alors que Jésus parlait peut-être à peine déjà Marie, il nous a dit qu'elle repassait ces choses sur son cœur. Elle repassait sur son cœur l'épisode avec l'ange qui est venu lui parler. Elle repassait sur son cœur l'épisode des mages qui sont venus apporter des trésors et se prosterner devant ce nouveau roi qui devait naître parce qu'ils avaient vu son étoile dans le ciel. Marie repassait sur son cœur ces bergers qui sont venus dire, nous avons vu des anges chanter dans le ciel parce que un roi, un enfant nous est donné. Et alors, Marie sait toutes ces choses. Certainement qu'elle a parlé de ces choses à Jésus. En tout cas, elle lui a parlé de Dieu, elle l'a enseigné dans les voies. Jésus est allé à la synagogue, il continue à apprendre. Puis Jésus fait ses expériences avec Dieu. Jésus prie. Il a besoin de prier, Jésus. Oui? Quand on voit Jésus plus tard, à l'âge de 30 ans, quand on lit dans les évangiles, on voit souvent Jésus en train de prier. On voit Jésus en train même de passer la nuit en prière. Jésus se levait tôt le matin et priait. Mais pourquoi est-ce que Jésus prie? Il sait toutes choses ou pas? Jésus prie pour que Dieu lui parle, pour que Dieu se révèle à son cœur. Elle pouvait dire à ses disciples, tout ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même, mais c'est le Père qui me l'a montré. Mais lui a montré quand? Alors qu'il était en prière, alors qu'il cherchait la face de Dieu. Souvenez-vous quand Jésus va choisir, nommer 12 disciples. Il nous dit qu'avant de nommer les 12, Jésus prie et il passe la nuit en prière pour demander à Dieu, « Hé, qui sont les 12 qui doivent être nommés, qui doivent être choisis ?» Si Jésus savait toutes choses comme ça d'une manière innée, d'une manière infuse, eh bien, il n'avait pas besoin de prier. Il n'aurait pas besoin de dire, « Seigneur, montre-moi. Seigneur, révèle-toi. » Mais c'est justement parce que Jésus a grandi, non seulement en stature, mais aussi en connaissance, parce que Jésus a grandi en sagesse, parce que Jésus a grandi en grâce devant Dieu, et bien que il va avoir cette sensibilité à la voix de Dieu, laissant Dieu parler à son cœur, lui révéler, lui montrer ce qu'il doit accomplir, ce qu'il doit faire, les œuvres qui ont été préparées pour lui. Jésus a appris à connaître Dieu, à savoir quel était le plan de Dieu, la mission que Dieu avait pour lui. Jésus a appris. Mais certains vont dire, mais si Jésus est Dieu, pourquoi est-ce qu'il a eu besoin d'apprendre? L'Épître aux Colossiens nous dit que Jésus a appris par les choses qu'il a souffertes l'obéissance. Il a appris l'obéissance. Jésus a appris parce que il s'est fait homme. D'ailleurs, c'est pas par hasard que c'est Luc qui va nous parler là de Jésus à l'âge de 12 ans, qu'il quelque part va venir là nous montrer que Jésus a grandi dans cette connaissance et qu'il a appris et que ça a été quelque chose de progressif. Luc, dans quasiment tout son évangile, va appeler Jésus le Fils de l'homme. S'il est question du Fils de Dieu dans Jean, il est question du Fils de l'homme dans Luc. Et Luc insiste quelque part sur son humanité en disant que Jésus s'est fait homme. Et Jésus est notre modèle. Et Jésus est notre exemple. Et Jésus est celui que nous devons imiter. Et quelque part, quand on réalise que Jésus était parfaitement homme, tout en étant parfaitement Dieu, d'accord, mais Jésus était parfaitement homme, et dans son humanité, il a été tenté des mêmes tentations que nous pouvons l'être, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Dans son humanité, il était là dans les mêmes conditions que nous pouvons l'être. On retrouve Jésus fatigué, assis au bord du puits. On voit Jésus là fatigué, assis au bord du puits de Sichem, à côté de Samarie. Et là, la Samaritaine vient. On voit Jésus fatigué du voyage. Dans son humanité, il a connu la fatigue. Il a connu l'angoisse. Jésus a connu l'angoisse. à Gethsémané, il a connu la tristesse. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a connu la joie, oui. Il a connu tout ce qu'un homme, une femme peut connaître. Et il a grandi dans la connaissance de Dieu. Depuis son plus jeune âge, il a grandi dans cette intimité pour devenir maintenant notre exemple, pour devenir maintenant celui que nous pouvons et que nous devons imiter. Jésus a appris et il est devenu si près avec Dieu. Il est devenu dans cette intimité avec Dieu qu'il pourra dire même devant le tombeau de Lazare, « Seigneur, si je prie, mon Père, si je prie maintenant, ce n'est pas pour moi-même, parce que je sais que tu m'exauces toujours, mais c'est pour eux qui m'entourent, afin qu'ils croient, afin qu'ils sachent, afin qu'ils connaissent. » On retrouve donc Jésus à l'âge de 12 ans dans le temple, en train d'apprendre, mais en sachant déjà qu'il a une mission et que Dieu est son Père. Qu'il est bon de voir des enfants de 12 ans savoir que Dieu est leur Père et qu'ils ont une mission. Vous allez dire, oui, non, mais ça c'était pour Jésus. Et pour les autres, c'est pas possible. Est-ce qu'un enfant peut connaître Dieu comme Jésus l'a connu à son âge? Est-ce qu'il est notre exemple? Est-ce qu'il est notre modèle? Est-ce qu'on doit ressembler à Jésus? Est-ce qu'on peut encourager nos jeunes et nos enfants à dire, tu sais, Dieu est celui qui veut parler à ton cœur personnellement? Pas seulement le Dieu de Marie, le Dieu de Joseph, le Dieu de tes parents, le Dieu de ceux qui sont autour de toi, le Dieu qui est à la synagogue, le Dieu du rabbin, non, non. Mais ton Dieu personnellement, avoir cette intimité avec Dieu. Et Jésus grandit en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Pas seulement devant Dieu uniquement, mais devant Dieu et devant les hommes. Grandir en stature devant les hommes, c'est clair. Grandir en grâce devant Dieu, mais aussi devant les hommes. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. En ce qui concerne Jésus, sa croissance physique, oui, mais sa croissance intellectuelle, sa croissance sagesse était visible devant Dieu et devant les hommes. Sa croissance spirituelle en grâce était visible devant Dieu et devant les hommes. Mais il y a une croissance. De la même manière, Dieu attend de nous qu'il y ait une croissance. Je ne sais pas à quel point vous êtes rendu avec Dieu. Peut-être certains diront, moi j'ai l'impression que je suis bien loin même du Jésus à 12 ans. Non? Ah ben, c'est bien que vous êtes rendu loin. Moi, je ne sais pas si je suis rendu à Jésus à 12 ans. Et des fois, on peut dire, mais Seigneur, moi aussi, j'ai besoin de grandir. Et Jésus a grandi. Il y a eu des progrès. Il y a eu des étapes. Il y a eu une évolution. Et de la même manière, Dieu aussi veut que nous grandissions et que la connaissance que nous avons de lui puisse grandir. Et que nous sachions déjà les choses importantes de Jésus, les premières choses qu'il a sues. Eh bien, si on prend juste ce texte, c'est résumé en deux points. Dieu est mon Père et j'ai une mission à accomplir. Et bien, de la même manière, avant de vouloir connaître, comprendre les grands mystères de l'Apocalypse, savoir qui est Dieu dans tous ses moindres facettes, dans tous ses moindres aspects, eh bien, ce que Dieu veut que nous sachions, premièrement, c'est qu'il est notre Père. Oh, beaucoup vont dire, notre Père qui es aux cieux, c'est facile à dire. Non? Ça se dit bien? Il y en a beaucoup qui disent ça, non? Non, vous avez jamais entendu quelqu'un dire notre Père? Non? Mais est-ce que Dieu, on le connaît comme étant notre Père? Jésus a une révélation particulière quand il dit « Dieu est mon Père ». Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et quand c'est dans la bouche de Jésus, on comprend qu'il y a une dimension là. Et c'est vrai, il est le Fils de Dieu, il vient d'en haut, il vient du Père. De la même manière que nous puissions nous aussi comprendre premièrement que Dieu veut être notre Père. Et si j'insiste pour dire que Dieu veut être notre Père, c'est parce qu'il ne l'est pas forcément. Dans Jean chapitre 6, Jésus va dire qu'on peut avoir deux paternités. Il va dire à certains, vous avez pour père le diable. Et il dit ça à des hommes religieux, des gens qui sont dans la religion. Et il leur dit, vous avez pour père le diable. Ah. Vous avez pour père le diable. Ou alors, vous avez pour père Dieu. Certains vont dire, mais comment on sait qui est notre vrai père? Ben, on fait une recherche ADN. Mais si on fait une recherche ADN, on va voir que le péché est en nous. Et que le péché, c'est l'ADN du diable. Non? Et quelque part, par l'ADN qui est en nous, on a pour père le diable. Mais Jésus est venu pour venir transformer notre nature, pour venir nous changer radicalement. Ce qui était humainement impossible, on n'est pas capable de changer notre ADN. Mais Jésus vient changer ce qui était humainement impossible et faire de nous, alors que nous étions des enfants de colère, faire de nous des enfants de lumière, alors que nous étions fils du diable, veut nous transformer, faire de nous des enfants de Dieu, et que nous puissions enfin appeler Dieu notre Père. Mais que ce soit pas juste un mot, que ce soit pas juste une parole, c'est de réaliser qu'avant, oui, notre Père légitime, notre Père par naissance, notre Père, la vaine nature que nous avions héritée de nos pères, dit l'apôtre Pierre, c'est le péché. Et ça, à cause de ce que nous avons hérité de l'ADN, du sang qui coule en nous, nous sommes pécheurs par nature. Mais Dieu a donné Jésus, afin que nous soyons en lui changés, transformés, rachetés, que nous soyons en lui une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, dira l'apôtre aux Corinthiens, quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il change d'ADN. Il est plus fils du diable, il devient enfant de Dieu. Nous avons été adoptés, nous avons été rachetés. Et nous pouvons enfin dire, Dieu est mon Père. Jésus, lui, dès le départ de sa vie, à 12 ans, il le savait. Je ne sais pas à quel âge il l'a compris, à quel âge il l'a su, à quel âge il a... Dieu qui parle à son cœur, eh bien à quel âge il s'est laissé convaincre, à quel âge il a pu saisir ces choses, mais en tout cas à 12 ans il le savait, Dieu est mon Père. Mais quand il sait que Dieu est mon Père, Jésus, la deuxième chose qu'il savait déjà à cet âge-là, c'est qu'il y a des affaires de mon Père dont il faut que je m'occupe. Et si on comprend aujourd'hui, si on réalise aujourd'hui que Dieu nous a sauvés, qu'il nous a délivrés, qu'il nous a sortis de l'esclavage du péché pour faire devenir enfant de Dieu, si maintenant on peut dire Dieu est mon Père, eh bien Dieu, notre Père, a ses affaires, non? Et quelqu'un dira, c'est pas mes affaires, c'est celles de Dieu. C'est pas mon problème, c'est pas mes affaires, c'est les affaires de Dieu. Mais Jésus dira, les affaires de Dieu, je suis concerné parce que je suis son fils. Est-ce que vous me suivez? Certains diront, je suis concerné parce que je suis concerné par les affaires de mon père, parce qu'un jour ça va être à moi. C'est mon héritage. Non? Alors il y en a qui par intérêt vont s'intéresser aux affaires de leurs parents, parce que les affaires de leurs parents, quelque part, c'est un peu les leurs. Ben, la Bible nous dit que en Jésus, nous sommes devenus co-héritiers. Nous avons nous aussi un héritage, et les affaires de Dieu, c'est aussi nos affaires. Et les affaires de Dieu, mais nous sommes concernés par les affaires de Dieu, parce que nous sommes ses enfants. Et on comprend pourquoi Jésus va dire « cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste, Dieu s'en occupera. Cherchez premièrement les affaires de Dieu. » Cherchez premièrement ce qui concerne les affaires de Dieu, non pas vos propres affaires, non pas vos propres besoins, parce que dans le contexte, il est question du manger, il est question de ceux qui ont besoin de manger, qui disent « on n'a pas à manger, nous on a besoin que Dieu intervienne et nous donne à manger », il est question de ceux qui n'ont pas de vêtements, qui disent « nous, on manque de tout », et pourtant Jésus va dire « même si vous avez des besoins là aussi criants, même si vous avez de tels besoins, que votre priorité » soit les affaires de Dieu avant d'être vos propres affaires. qu'on soit là concerné par les affaires de Dieu, et Jésus l'est, puisque la réponse qu'il fait à Joseph et à Marie, c'est de dire « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ». En ce qui nous concerne, s'il fallait nous poser la question ce soir, est-ce qu'on s'occupe des affaires de notre Père ? Est-ce qu'on est préoccupé par les affaires de notre Père ? Évidemment, on a déjà répondu à la première question, est-ce que Dieu est notre Père ? Bon, on a répondu à cette question, Dieu est notre Père ? Si certains disent non, moi je ne crois pas qu'il est mon Père, eh bien ils veulent devenir. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, en Jésus, simplement, reçois par la foi, crois que Jésus est mort. Tu deviens son enfant. Maintenant, si on a répondu à cette question, oui, Dieu est mon Père, eh bien, est-ce qu'on s'occupe des affaires de notre Père ? Et comment est-ce que l'on s'occupe de ses affaires ? À un moment, Jésus va raconter une parabole. Il va dire, un père avait deux fils. Et il va dire à l'un de ses fils, va dans la vigne travailler. Et le fils va dire, non, j'y vais pas. Ensuite, d'ailleurs, ça se fait pas de dire ça quand même, si ? Ensuite, il dit à un autre fils, va travailler. Oui, j'y vais, papa. Ah, ben voilà, encore un bon fils. Mais Jésus continue son histoire. Elle veut dire, le premier qui avait dit non, s'est senti travailler au fond de lui-même. Il dit, là, quand même, c'est pas correct ce que je fais. Il a pris de remords, il alla travailler dans la vigne de son père. Le deuxième, celui qui avait dit, oui, j'irai, ben, il n'y est pas allé. Jésus nous pose la question, moralité, lequel des deux a fait la volonté de son Père ? Lequel a fait la volonté de son Père ? Celui qui a dit non, parce qu'il y a été quand même. De la même manière, voyez-vous, celui qui s'occupe des affaires de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est pas forcément celui qui le dit. C'est pas forcément celui qui en parle le plus. C'est pas forcément celui qui donne l'apparence d'eux. Mais c'est celui qui fait. Celui qui agit. Celui qui œuvre. Celui qui obéit. Même s'il y avait de la rébellion au départ dans le cœur de ce fils, eh bien, en fin de compte, il s'est repenti. On comprend l'importance de la repentance. Il s'est repenti, c'est-à-dire il a changé de voie, changé de direction. Et finalement, il est allé répondre à l'ordre de son Père. Jésus savait deux choses à l'âge de 12 ans. Dieu est mon Père. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Jésus n'a pas su ça comme ça d'un coup, mais Dieu lui a enseigné. C'est venu progressivement. Et on voit que Jésus cherche à apprendre et à apprendre encore. Et qu'il passe du temps auprès des docteurs de la loi. Souvenez-vous ce que le début du texte nous dit, que c'était tous les ans qu'il montait à Jérusalem. C'était peut-être pas la première fois que Jésus entend ces hommes parler, puis il y avait aussi, donc comme je vous le mentionnais tout à l'heure, la synagogue à Jérusalem. Et après, Jésus grandit en sagesse, et on imagine Jésus maintenant qui a le droit de lire, parce qu'il a appris à lire là jusqu'à l'âge de 13 ans, mais à partir de 13 ans, il a le droit d'accéder aux textes dans la synagogue, et il va lire ses textes, il va lire ces choses, il va laisser l'Esprit de Dieu parler à son cœur, il va grandir pour être enfin prêt le jour où le Seigneur va pouvoir confirmer son appel alors que Jésus va être baptisé par Jean le Baptiste et que l'Esprit de Dieu va descendre sur lui sous la forme corporelle d'une colombe et que la voix de Dieu va se faire entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et quand Jésus entend ces paroles, et la foule est là pour entendre ces paroles, Jésus n'est pas surpris. Il savait déjà. C'est les autres qui sont surpris, parce qu'ils ne le savaient pas, et à eux aussi cette révélation a été donnée. Qu'on puisse ce soir, au travers de ces paroles, simplement, à travers de ce texte, réaliser que Jésus est notre modèle, et que nous devons l'imiter, et qu'en lui, nous aussi, nous avons besoin de grandir en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes, que nous avons besoin, nous aussi, de grandir dans cette révélation que Dieu veut donner à notre cœur de qui nous sommes, de qui il est. Il est mon Père. Grandir dans cette réalité, pouvoir saisir tout l'impact que ça a dans notre vie. Il est mon Père. Eh, mon Père est fort. Il est grand. Et il m'aime. Non ? Quand un enfant sait qui est son Père, il n'a pas peur dans la cour d'école. Parce que mon Père, il est plus fort que le tien. Non ? C'est pas comme ça qu'on dit dans une cour d'école ? Ouais ? Et si on réalise qui est notre Père, il est plus fort que le Père peut-être de quelqu'un d'autre. Réaliser que Dieu est notre Père et tout ce que cela signifie. Et deuxièmement, réaliser qu'il y a des affaires de notre Père. Et que Dieu attend que nous nous occupions des affaires de notre Père. Jésus a compris ces choses à l'âge de 12 ans et il est notre exemple et notre modèle que nous aussi nous puissions comprendre ces choses. Pourquoi pas à l'âge de 12 ans ou un peu plus. Moi, ça m'interpelle quelque part parce que c'est à l'âge de 13 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je fais ma bar mitzvah. Si le Seigneur est venu toucher mon cœur, m'a rempli du Saint-Esprit. Puis je me souviens que plus tard, j'étais en cinquième année, mais cinquième année française, ça fait secondaire 2, hein? Secondaire 1, à peu près, en secondaire 1. Il y avait un missionnaire américain, là, Al Herman, je sais pas s'il y en a qui ont connu Al Herman. Il est décédé il y a quelque temps. Missionnaire américain qui est bien connu, qui faisait le tour de la France et autres, puis il logeait chez nous avec son épouse. Puis son épouse a voulu me prendre en photo pour me montrer à tous les petits Américains là-bas. J'ai dit, moi, en photo, en modèle pour les Américains. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai donc fait pour être là en photo? Et je me sentais honoré. Je dis, quand même, là. Ben, tout simplement parce que j'avais un sac d'école, j'ai dit un cartable, non? Un sac d'école sur lequel il y avait plusieurs autocollants qui parlaient de l'amour de Dieu. Ça dit, ben voilà un garçon qui a 13 ans, a pas peur d'afficher sa foi et d'aller à l'école. Je sais pas s'il y a beaucoup d'enfants ici qui vont à l'école avec un autocollant. Jésus t'aime! Vous avez ça sur vos sacs d'école, vous? Non? Sur votre voiture? Je sais pas sur quoi. Dès notre plus jeune âge, on peut prendre conscience qu'on a une mission et que Dieu a quelque chose pour nous. Et que les affaires de Dieu, ben, il faut qu'on s'en occupe. Qu'on puisse chacun pour notre part dire, Seigneur, il y a peut-être des affaires là qu'il faut que je m'occupe, mais je sais pas trop lesquelles. Autant fais pas, Dieu va te le montrer. Tu l'as peut-être déjà montré. Peut-être pas tellement honnête quand tu dis Dieu, je sais pas. Parce que tu sais peut-être déjà ce que Dieu attend de toi. Qu'on puisse dire simplement, Seigneur, je veux faire. Et je veux obéir. Je veux suivre l'exemple de Jésus. Comprendre, faire, agir et puis t'honorer par mes paroles et mes actes. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ta parole. Merci pour ton exemple. Merci pour ton modèle, Seigneur. Qu'il est bon de réaliser que tu veux nous faire grandir dans la connaissance de Dieu. Tu veux nous faire grandir en toi. Tu veux nous faire grandir dans ta parole. Grandir en stature, en sagesse, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Oh Seigneur, oui, comme nous l'avons chanté, je veux te connaître plus, je veux te servir plus, je veux t'aimer plus encore. Oh, je veux voir ta face. Seigneur, merci, parce que au travers de l'exemple de Jésus, nous voyons que tu veux nous amener tellement haut, dans une telle connaissance de Dieu. Voulons pas, Seigneur, sous-estimer la révélation que tu veux nous donner. Donne-nous au contraire de méditer ta parole, de laisser ton esprit nous parler, nous montrer qui tu es, la grandeur de ton nom, pouvant ensemble glorifier ton saint nom, réalisant que les affaires de Dieu, tu veux que nous nous en occupions. Seigneur, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Oh Seigneur, apprends-nous à mieux nous occuper de tes affaires, à mieux nous occuper du royaume de Dieu et de sa justice, à mieux accomplir tes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, à mieux vivre les principes de l'Évangile, à être là vraiment des modèles pour toi. Seigneur, glorifie ton nom dans nos vies. Que cette parole soit pas juste quelques mots, quelques discours, mais que cette parole puisse nous amener à grandir en toi. Pardonne-nous les fois où nous avons négligé, Nous avons répondu peut-être comme ce fils, « Oui, Seigneur, on va s'occuper de tes affaires et on n'a rien fait. » Voulons, Seigneur, être de ceux qui agissent, de ceux qui obéissent. Sers-toi de nous encore et viens encore te révéler à notre cœur et nous faire grandir dans ta connaissance pour ta gloire. Que ton nom soit béni, ton nom soit toute la gloire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais vous inviter à trois choses qui sont toutes simples. La première, c'est de lire la Bible. Et de la lire, et de la lire encore. Et de la dévorer. Je connais un chien qui a dévoré la Bible, mais c'était pas la même chose. Mais nous, c'est pas dans ce sens-là. Qu'on puisse là vraiment la lire, la méditer, la repasser sur notre cœur. Deuxième, c'est de prier. C'est de prier. Et Jésus est un exemple pour nous. De prendre du temps dans sa présence. Et de dire, Seigneur, là, dans ta présence, parle à mon cœur, instruis-moi, montre-moi. Jésus a fait bien d'affaires parce que Dieu lui a montré. Il le dit. Ce que je fais, je le fais pas de moi-même, mais je le fais de ce que Dieu m'a montré. Tout comme Moïse n'a pas construit le tabernacle de lui-même, mais il l'a construit parce que Dieu lui avait montré le modèle. Eh bien, Seigneur, montre-nous aussi, dans ces temps de prière, ce que tu attends de nous. Et le troisième, c'est de revenir dans ce lieu, dans une église, persévérer dans la présence de Dieu, persévérer dans la communion fraternelle, afin qu'ensemble, nous puissions grandir en stature, en sagesse, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Que Dieu vous bénisse.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.